טוב, פרשת וישלח. הלאה.
Donc on raconte que il y a 70 ans, il y avait un admour à Yerushalayim, assez charismatique, qui s'appelait Rav Shlomo Mizvil, l'admour d'Osvil. Et lui avait un minag un peu bizarre, intéressant. Et en fait, il avait l'habitude de se rendre au Kever Rachel, toujours avec de la nourriture sur lui. Il faisait soin de bien manger avant, juste en arrivant sur place. D'abord, il mangeait sur place et après, il rentrait pour prier. Et lorsqu'on lui posait la question, mais pourquoi cette habitude bizarre ? Il dit, quand je vois Kever Rachel, je vais voir la mère par excellence. Et une mère, elle aime bien que son fils y soit rassasié. Ça montre un petit peu pas un paradoxe, mais un double sentiment qu'on peut avoir quand on va au Kever Rachel. D'un côté, effectivement, on se sent choyé, on se sent entendu. Dommage quand on prie là-bas. D'un autre côté, on pense à toute cette vie, on va dire, difficile qu'elle a vécue, le fait qu'elle est isolée, le fait qu'elle soit seule là-bas. Donc on a ce double sentiment, cher Rachel. Et sur ça, on va essayer de s'intéresser à comment ça se fait de mettre que Yaakov n'a pas tenu, puisque a priori, au moment où Rachel décède, il y a encore deux places à Maharat HaMarpella. Donc normalement, il aurait dû aller l'enterrer là-bas, c'est pas si loin que ça. Alors on va développer bien la question comme il faut. C'est ce kavod que Avraham a fait, comme on voit, c'est marqué comme ça dans la parasha cette semaine. Vatamot Rachel, vatikaver bederech Ephrata, ibet lachem. Rachel meurt, elle a enterré bederech Ephrata. Même pas, donc c'est même pas à Ephrat, c'est bederech Ephrata, en chemin d'Ephrat, ibet lachem, qui se trouve à Bethléchem. On connaît tous le Pirkei de Rabbi Eliezer, tu sais, quand dans la parasha de Vayera. C'est marqué « Ve'el Abakar Ratz Avraham ». Bizarre, cette expression. Il a couru. Alors dans le Pirkei de Rabbi Eliezer Lamedé, là-bas, il dit comme ça « Ve'el Abakar Ratz Avraham ». Pourquoi on dit qu'il a couru ?« Barach Milifanav ». En fait, il est parti chercher un veau, effectivement, pour préparer pour ses invités. Et le veau s'est sauvé devant lui. Alors il s'est mis à lui courir derrière. « Ve'nichnas le me'arat amarpela ». Et le veau est rentré dans la grotte. Ratz Avraham Acharav. Avraham continue à courir derrière lui. Umatsa shamadam vechava shorvim alamitot veyeshenim venerod dolkim alehem. Et il y trouve Adam et Chava couchés sur des lits, alors que des bougies allumées sont à leur côté. Vereach tov alehem kereach nichoach. Une odeur paradisiaque. Dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, les fichach hamad tamehara la chuzat kaver. C'est de cet instant-là qu'il a désiré acquérir cet endroit en tant que sépulture, pour y mettre effectivement lui, sa femme, etc. Et on voit que, même si on saute des parachutes, d'accord, bon, ça c'était avec Avraham. Donc Avraham a pris pleinement conscience de la grandeur de cet endroit à l'époque où il a reçu les anges. Et comme on va voir, la Torah ne lésine pas sur cette histoire. C'est-à-dire qu'elle en fait un sujet en soi. Il y a 20 psukim qui traitent de la façon dont Avraham va s'acharner pour acheter ce morceau de terrain à n'importe quel prix afin de donner ce kavod que méritait Sarah. Donc, on y attache quand même de l'importance chez nous. C'est pas stam, il faut juste ramener l'être humain à la terre. Alors peut-être que, bon d'accord, c'est Avraham qui avait découvert ça. Lui connaissait ce secret, et Yaakov. Moi, je crois qu'il y a Yaakov aussi, parce qu'on le voit dans la paracha de Vayechi, quelques parachutes plus loin, à la fin du Sefer Bereshit, quand Yaakov s'apprête à mourir et qu'il appelle Yosef, il lui dit « Va'ani bevo'i mipadan meta alai Rachel, be'eretz kenan baderech ». Il se met à refaire l'histoire, alors que des dizaines d'années étaient passées. Donc en venant de Padan, Rachel est morte en chemin, Be'eretz Kenaan, va'egubera Hasham, bederech Ephrat di Bethlehem, je l'ai enterré là-bas. C'est intéressant, le Ramban sur place au niveau du pshat, pour essayer d'expliquer pourquoi il reprend l'histoire. C'est bon, demande-lui d'aller t'enterrer à Matamara, à côté de tes pères, etc., d'Yitzhak, de Avraham. Bonjour. Il dit le Ramban, al derech hapshat, gamken amarlo kemitnatzel. Le Ramban, il faut comprendre le pshat du pasouk. Pourquoi est-ce qu'il reprend toute l'histoire? Comme si Yaakov était en train d'essayer, de, entre les lignes, de s'excuser. Shelo yichar le Yosef birot chevso bigvoat amehara, que Yosef ne prenne pas mal le fait que Yaakov veuille absolument, alors qu'il est en Égypte. Donc on aurait pu imaginer, bon, peut-être qu'il va être accepté d'être enterré pas très loin. Non, il ne veut pas qu'il prenne mal le fait que lui tient absolument qu'ils sont enterrés là-bas. Al shelo kavar imosham v'kasher kavar shamet lea. En plus, Yosef, c'est pas ça, c'est que Léa avait été enterrée là-bas, donc il ne comprend pas. Donc, à la rigueur, tant que Léa était enterrée là-bas, Yosef s'est toujours dit, bon, peut-être que mon père voudrait être enterré à côté de ma mère, à côté de Rachel. Mais on voit justement, il reprend l'histoire, il dit, mais j'ai dû l'enterrer là-bas parce que les circonstances, etc., le chemin, Meta alai Rachel, on va voir tout ça tout de suite. On va rentrer plus dans les détails. En tout cas, le Ramban a l'air de dire explicitement que Yaakov avait pleinement conscience de la grandeur de cet endroit qui était Meret Amarpela. Donc, ma baïa, je me demande, alors pourquoi tu ne vas pas enterrer Rachel là-bas? Pourquoi tu ne lui donnes pas ce kavod? Essayons de donner une dimension encore plus importante à cette question. Il n'y a pas un couple dans toute l'histoire biblique. Toute l'histoire biblique, ce n'est pas seulement Hamisha Chumash Torah, mais tout le Tanakh, dans lequel les psukim décrivent un attachement, un amour dans un couple autant que Yaakov et Rachel. C'est le couple le plus attaché, le plus aimant mutuellement. Il y a pas, même quand on va chercher, par exemple, voilà, Yitzhak, à la rigueur, Yitzhak, quand il s'est marié avec Rivka, c'était bien marqué, Vaikach et Rivka, Vateilo Leisha, Vaye'avea. Ah, après, non, il s'est marié d'abord, et une fois qu'elle était sa femme, après, il a appris à l'aimer. Quand on parle de Elkana, avec sa femme Chana, la mère de Shmuel, à un moment donné, il dit, Chana, Yiten, Mana, Achatapayim, Ketrana, Vachana, il avait l'habitude de donner deux parts quand il allait faire ses pèlerinages. Parce qu'il l'aimait. Nous, donc la Torah n'a pas peur de dire qu'un homme, effectivement, aime sa femme. Mais comme Yaakov, ce passouk-là, le passouk qui a été dit dans la paracha de la semaine dernière, dans la Yitzé, quand là-bas c'est marqué Vayavod Yaakov Berachel Sheva Shanim, Vayu Be'enav Keyamim Achadim Be'ahavato Ota. Extraordinaire. C'est que la Torah consacre un passouk pour nous dire la sensation avec laquelle Yaakov a vécu ces 7 années de travail pour pouvoir se marier avec Rachel. Et la Torah dit Vayu be'enav kiyami machadim. C'était comme quelques jours, vraiment peu de jours. Be'ahavato ota, tellement, tellement qu'il aimait. Et Bémet, le Mefarshim, pose la question là-bas. Généralement, quand on aime quelqu'un, on trouve le temps long. Il y a un yesod très sympathique, lui, qui peut être évident, mais en tout cas, il est dit par nos maîtres, par les Rishonim, par le Chizkuni, comme on va voir. C'est bizarre, c'est ça la question que le Akedat Yitzhak pose. Il dit, pourquoi la Torah elle dit tellement il aimait, c'est passé? Au contraire, la Torah lui dit Vayu be'enav ke'elef shana. Be'ahavato, tellement il aimait, c'était interminable, c'était infinissable pour lui. On imagine un khatan qui vient chercher sa kala à l'aéroport et qui voit sur le cadran que l'avion il a en retard une demi-journée et il devient fou, et il s'inquiète, chaque minute elle est trop longue. Alors pour répondre à cette question, il y a un midrash, le Psikta Zutrata dans Shemot. Là-bas, la psikita ramène le pasouk au début de Shemot qui parle de l'époque où les Bnei Israël ont été soumis à la cruauté, à l'esclavage imposé par Paro. Et le récit donc de l'esclavage commence par le terme suivant: Vayi, Bayamim, Arabim, Ahem. Donc on commence à qualifier la qualité des jours. Vayi, Bayamim, Arabim. Et il dit le Midrash comme ça: Bisman, Shem, Ovrim, Ba'anacha. Tout le temps qu'un homme, donc le, en l'occurrence le peuple juif, était dans un sentiment de souffrance, de soupir, donc de souffrance, Nikraim Rabim. Alors effectivement, c'est trop long. Aval Bisman, Shem Ovrim Besimcha. Mais quand les choses se passent bien, quand les choses se passent Besimcha, Nikraim Achadim. Les jours sont appelés quelques jours. Achadim, c'est des quelques unités. Sheneemar, Vayu Be'enav, Kiyamim Achadim, Be'avato Ota, comme on le voit avec Yaakov. Donc le Midrash fait déjà ce contraste entre deux contextes de vie. Un contexte de souffrance dans lequel les journées sont interminables et un contexte de joie dans lequel, au contraire, le temps passe très vite. On ne le voit pas, on le voit pas filer. Alors, il faut comprendre. C'est quoi, comment ça marche? Alors le Sforno, il rajoute un petit mot pour expliquer ce Midrash en disant, il dit comme ça: Chashav Shaya Raoui la tête la Mohar Rav Mise, Be'ahavatoota. Ce que le Passouk cherche à dire en disant que ces jours sont passés très vite, tellement il aimait, en fait, on veut nous faire part ici de la façon d'appréhender ce travail de la part de Yaakov. Yaakov pensait, comme ça dit le Sforno, Shaya Raoui la tête là, qu'elle aurait mérité d'avoir une dot ravmisée. Encore plus important, on dit, mais quoi, pour avoir une fille comme Rachel, même si tu me dis qu'il faut travailler 20 ans, je travaille 20 ans. C'est tellement exceptionnel. Et là, c'est ça, be'ahavato ota. C'est ça, c'est-à-dire que, en fait, quand il travaillait, il avait l'impression de lui donner quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, il manifestait, il l'exprimait à travers ses journées de travail. Voilà ce que tu vois à mes yeux. Encore une fois, il n'y a pas de problème, et j'endure, et je vais me donner, et je vais me sacrifier. Et c'est ça, c'est cette sensation qu'il avait, qui l'animait, qui le satisfaisait pleinement, qui faisait que les jours passaient très très vite. Pour faire un petit crochet sur ce que le Sforno dit, peut-être qu'aujourd'hui, la jeune génération aurait du mal à comprendre ce qu'on est en train de dire parce que tout simplement la notion d'amour a été pervertie, complètement dénaturée. Aujourd'hui, la notion d'amour est perçue effectivement comme un désir limite malsain, comme une envie, comme un plaisir pour soi qui est tourné vers soi. C'est de l'égocentrisme pur. On connaît tous l'histoire de ce groupe de pêcheurs qui était parti à la rivière un jour et qui avait attrapé un poisson comme ça, qui faisait 7-8 kilos. Et le poisson qui était là dans la boîte, donc en train de se battre contre la mort, et il entend les pêcheurs se dire « Ah, celui-là, tu sais qu'il y a le gouverneur, il adore le poisson. Ah, qu'est-ce qu'il aime le poisson ? On va aller le voir, on va lui amener. » Quand il entend ça, il est soulagé. En se disant, enfin quelqu'un qui m'aime. Il dit, moi je retiens ma respiration, il faut que je tienne jusqu'à là-bas. Il s'accroche à la vie. Et là il l'amène effectivement dans la cuisine de cet éminent personnage, et il voit effectivement la cuisinière qui arrive avec son couteau. Bon, il dit, mais c'est quoi cette bande de triche? Qu'est-ce qu'ils aiment le poisson? Ils m'ont fait croire jusqu'au bout. J'aurais dû laisser tomber depuis le début. Mais qui te bon, ça, effectivement, on n'aime pas le poisson, on s'aime soi. Malheureusement, aujourd'hui, l'amour est perçu par les jeunes, du moins au début de leur carrière, de cette façon-là. Après, bon, Hachem, ça évolue, ils apprennent. La vie est là pour nous apprendre. Mais la Torah, chaque fois qu'elle utilise la notion de Ahava, comme elle l'utilise à l'encontre de Yaakov, comme dans les mitzvot, Ve'avta l'eracha kamocha, Ve'avta et Hachem elokecha, c'est toujours rivé vers l'autre, c'est pas vers soi. C'est-à-dire que, en fait, il donne une belle définition. Il dit, l'amour aux yeux de la Torah, c'est akoach hamufla lasim lev le mishua acher. Tout simplement, cette force extraordinaire de prêter son attention à quelqu'un d'autre. Il dit, c'est une force surnaturelle, l'état alot me'ala ego sheli, qui permet à l'homme de dépasser son ego personnel, velasim lev sheyeshod mishu babayi, et qui me permet de prendre pleinement conscience qu'il y a une autre personne dans la maison. Il dit, voilà, qu'est-ce que l'amour ? L'amour, c'est ce qui permet à des parents de passer des nuits blanches parce qu'ils sont inquiets, parce que leur enfant a de la fièvre, tout simplement. C'est ce que l'amour fait, c'est pas quelque chose qui m'apporte à moi, c'est quelque chose qui me fait dépasser des limites que je ne soupçonne pas en moi, tellement je considère l'existence de l'autre. Un jour comme ça, il y avait un groupe de femmes qui discutaient entre elles. Et chacune disait, qu'est-ce que j'aimerais, un groupe de jeunes filles, qu'est-ce que tu aimerais que ton mari y fasse ? Alors une, elle dit, moi j'aimerais que ce soit un médecin. L'autre dit, moi j'aimerais que ce soit un pilote de chasse. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais ? Il disait la troisième, moi j'aimerais qu'il fasse ce qu'il aime faire. Ça, c'est de l'amour, ça, véritablement, c'est de l'amour. Il y a une anecdote, hein ? Ce qu'il aime faire. Il y a une anecdote comme ça qu'on raconte avec un certain... Il y a un homme aux États-Unis à Philadelphie qui s'appelle Schneur Zalman Schachter. C'est un homme très proche des communautés conservatrices. Donc là-bas, je sais pas, c'est là, bon, ça sort un peu, c'est un peu original. C'est pas des gens qui sont dans le cœur des orthodoxes, on va dire. Et lui est très actif dans le milieu conservateur de la communauté juive. Et un jour, donc le Sheliach de Philadelphie, qui est le Rav Avraham Shem Tov, s'appelle, très connu, va voir le Rabbi à New York, et le Rabbi lui demande, dis-moi, tu as des contacts avec Schachter ? Il dit, oui, bien sûr, on se parle de temps en temps. Comment ça va, lui, au niveau de la Parnassa ? Alors le Chassid lui dit, je ne sais pas du tout. Le Rabbi lui dit, je ne comprends pas. Mais tu dis que tu t'intéresses à lui, tu sais pas comment ça va au niveau de la parnassa. C'est ça, avoir un ami, c'est pas s'intéresser à soi et prendre de lui ce qu'on a besoin. C'est vraiment s'intéresser à l'autre, pour l'autre. Mais qui sont bon, ça c'est des choses qui reviennent. En tout cas, c'est des choses qui sont évidentes aujourd'hui peut-être, qui n'ont pas toujours été. Mais on va dire, ça nous permet d'intensifier la question sur Yaakov. En tout cas, on comprend maintenant quand c'est marqué Vayu be'enav ki yamim achadim be'avato, c'est ça. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, puisqu'il l'aimait elle, alors effectivement, donc il a ressenti, on va dire, une satisfaction dans le travail qu'il faisait, parce qu'elle le méritait largement. Et donc à partir de là, il voit les choses se passer de façon très rapide. Mais quand on aime de la mauvaise façon, on est tourné vers soi. Bien sûr, quand le fameux fiancé, il voit le retard de 7 heures de l'avion dans lequel sa cala doit être arrivée, bah, c'est un amour pour soi. Alors là, il le prend effectivement très mal. Et chaque minute semble interminable. En tout cas, Chachamim n'ont pas eu peur de dire que l'amour que Yaakov portait à Rachel était un amour référentiel, un amour exemplaire, un véritable amour. D'accord, et c'est pas Chachamim, c'est la Torah qui le dit avec ces mots. D'accord, qu'il y a Mim Achadim, c'est ça. Alors, bon, il aimait tellement. C'est la seule fois dans la Torah où on s'intéresse à la qualité d'un amour. Tu prends pas le temps d'aller là. Il y a deux places. Mais imagine même à l'époque, tu as une place. Mais arrête ta marque là, tu la mets pas là-bas. Comme ton grand-père Abraham, il a fait avec Sarah. Pourquoi est-ce qu'il enterre ? Il enterre bas derrière. C'est très très difficile. C'est une question dérangeante, vraiment. Alors, il y a plusieurs approches. L'approche du Chizkuni, un Rishon. Lui dit, la véritable réponse se trouve dans le terme que Yaakov utilise. Comment il dit ? Meta alai bas derrière. Bas derrière. C'est quoi bas derrière ? En fait, si on reprend un petit peu comme ça de haut le film de notre paracha, Yaakov revient en Israël, il a pas mal, on va dire, d'angoisse sur comment ça va se passer avec son frère Esav, donc il redoutait énormément cette rencontre, qui en fin de compte se passe pas trop mal, mais ça reste tendu. Étant donné qu'il revenait derrière, c'est ça. C'est... Maintenant, c'est un toshav chozer. Ça fait 20 ans qu'il n'est plus en Israël. Maintenant, il revient. Et ça lui arrive. Le drame de Rachel lui arrive. Si maintenant, alors que, on va dire, les choses se refaisaient au fur et à mesure doucement avec Esav, si maintenant il allait proclamer haut et fort, ah non, mais Maharat Amarpella, c'est à moi, hein, ma femme est morte, je vais l'enterrer là-bas. Il aurait tout gâché avec Esav. Toute cette approche, toute cette filote qu'il avait fait, serait parti à la perte. Et donc c'est ça ce que la Torah veut dire quand c'est marqué Baderer. D'après le Chizkuni, c'est la raison. Bon, alors ça, on va dire, c'est ce qu'on appelle c'est les aléas du contexte présent, voilà, qui sur le moment. C'est comme ça que Yaakov essaye d'expliquer à Yosef dans la parasha de Vayechi, Vani, Bevoi, Mipadan, Metal, Ayrachel, avec moi, Vaigbera, Hacham, Baderer. Tu comprends, mon fils, voilà, on était en chemin, je venais de me réconcilier avec mon frère, c'était compliqué, donc je ne l'ai pas fait à l'époque. Il s'en excuse. Ça, c'est l'approche du Chizkuni. L'approche. Le Sforno. Le Sforno aussi, sur ce pasouk, a une autre approche, un peu plus émotionnelle, on va dire. Lui, il s'arrête sur un autre mot. Comme il dit, Vani, Bevoi, Mipadan, Meta, Alai. C'est bizarre de dire comme ça. Meta alai Rachel. On va dire Meta Rachel. Lorsque je suis revenu de Padan en Israël, Meta Rachel. Meta alai Rachel. Le Sforno dit comme ça, en deux, trois lignes. Il dit Vechol kar gavra alai tirdati veavli. C'est-à-dire que ma peine, mon deuil a pris le dessus sur moi. C'est ça, Meta alai. Shelo atzarti koach leolicha lebet hakvarot betlechem. Je n'avais même plus la force mentale de l'amener de la déplacer de Bethléem. Ve'en safek ki me'az ayalibi halal bekirbi. Comme ça, le soir, on explique sur Yaakov. Yaakov disait à Yosef, en fait, depuis que ta mère est partie, mon cœur est vide. J'ai un trou dans mon cœur. Ve'lo shalat odbi yetzerara. Et je n'ai même plus de désir. Ve'nech leshat avati. Mon désir a été grandement frappé. Et tu remarqueras d'ailleurs, mon fils, depuis que ta mère est morte, je n'ai plus d'enfant. Et c'est ça, dit Meta alai Rachel, Kema Amaram Zal, en Isha Meta El Alebala. Comme dans la Gemara, on dit une femme ne meurt que pour son mari. Donc, d'après le Sorno, il s'agirait ici plus d'une approche, on va dire, d'un certain découragement légitime, naturel, de la part de Yaakov, après cette tragédie d'avoir perdu soudainement sa femme. Bon, alors voilà, ça c'est le Chizkuni, c'est une histoire directe, voilà, bon, c'est les aléas, le contexte présent, et d'après le Sforno, c'était le mental, j'avais pas le mental. Bon. Peut-être ce sont deux explications assez tristes, mais qui ne justifient pas pourquoi il a fait ça, pourquoi il l'a enterré à Bethléem. D'accord, pourquoi il n'est pas parti jusqu'à là-bas? Il doit avoir une explication, on va dire, plus satisfaisante. Effectivement, dans un des Likut Sichot du Rabbi, il s'appuie sur un Rashi pour expliquer la chose de façon beaucoup, beaucoup moins dramatique, beaucoup plus intentionnelle, beaucoup plus grande, qui fait référence, parce que les deux explications, on va dire, ne mettent pas tellement en valeur Yaakov. Ça le rend un humain un peu normal, frappé par la mort tragique de sa femme, ou tout simplement pris dans les tourments de ses relations fraternelles difficiles et compliquées avec Esav. Le Rabbi ramène le pirouche de Rashi. Mais pour comprendre le pirouche de Rashi, il ramène d'abord une histoire qui est arrivée à Berditchev. On connaît tous cette ville parce qu'elle était donc dirigée spirituellement par le tzaddik qui était Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev, celui qui aimait profondément le peuple d'Israël sans aucune condition, sans aucune distinction. Et un jour, c'était la veille de Yom Kippour Mamash, à quelques heures de Yom Kippour, le Rav envoie son secrétaire, celui qui s'occupait de lui, pour faire passer un communiqué dans la communauté que cette année, il y allait avoir un changement significatif concernant ce qu'ils avaient l'habitude de faire avant Kippour, Pidyon Nefesh. Bidon Nefesh, c'était en fait les gens qui prenaient une feuille, ils marquaient leur nom, le nom de leur mère, pour que le rabbi prie pour eux pendant qu'ils courent, etc. C'était une bracha personnelle du rabbi. Bon, ça se faisait comme ça chaque année. Et les habitants de ce village de Berdichev, ils tenaient énormément à ce minhag de donner chacun son nom au rabbi que pendant la journée de Kippour, ils prient pour eux. Et cette année, donc, le rabbi fait savoir par le biais de son chaliar, il dit, écoute, tu vas aller voir tout le monde et tu vas leur annoncer que cette année, un nom, c'est 2 roubles. Voilà. Pendant les habitants de Berdichev, c'est pas les grandes situations financières. Mais le rabbi a décidé comme ça et il lui dit, attention, surtout, il n'y a pas de marchandage. Il n'y a pas possibilité de réduction au prix de famille. Non, c'est un nom, deux roubles. Toi, vous imaginez bien que cette année, il y a eu beaucoup moins de noms que d'habitude. Mais ce qui a été frappant, et c'est la raison pour laquelle on ramène cette histoire, c'est que, mamache, quelques minutes avant Kol Nidre, une veuve avec un enfant unique vient voir le rabbi avec sa feuille de Pidyon Nefesh. Elle avait entendu le message. Elle lui donne à la compagne sa feuille dans l'enveloppe. Il y a 2 roubles. Donc le rabbi prend, il ouvre la feuille et il voit 2 noms. Il dit, oui, c'est qui ? C'est moi ou mon fils ? Ah, c'est 4, madame. Elle lui dit, mais rabbi, je suis veuve et parents isolés, j'ai pas de revenus, c'est très difficile avec mon fils. Les 2 roubles que je vous donne, j'ai dû les emprunter à quelqu'un. Ah oui, je vous en prie, mon fils, moi, c'est la même chose. Non, c'est deux. Alors c'est ça, vous me donnez 2 roubles supplémentaires, vous les avez pas, alors vous enlevez un. La femme, assez surprise, bon, apparemment, mettre en question l'attitude du rabbi, le rabbi Yitzhak. Il récupère la feuille une fois que la femme a barré un nom et il remarque que la femme a barré son nom. Elle a laissé le nom de son enfant. Et elle lui dit comme ça, si déjà vous bénissez quelqu'un, je préfère que vous bénissiez mon fils, moi je m'arrangerai, moi je me débrouillerai déjà. Et là, le rabbi lui dit, ah, c'est ça que j'attendais. C'est ça que je voulais avant, arriver à Yom Kippour avec ça. Il dit, maintenant je peux aller prier. Et là, il s'est mis à parler à Kadosh Baruch Hu, tu vois. Regarde comment une mère, elle perçoit les choses. Quand elle n'a pas le choix, quand elle vit des moments tragiques, difficiles, restreints, s'il y a une possibilité de bénir quelqu'un, c'est son fils avant elle. Elle, c'est pas grave, c'est le sacrifice. Alors à Kadosh Baruch Hu, nous, on est tes enfants. Alors la même chose. Si il y en a un qui doit compter, c'est nous. En fait, cette histoire, le rabbi dans l'Ikut Esichot ramène cette histoire pour expliquer un petit peu l'attitude de Yaakov d'avoir enterré Rachel à Bethléem. En fait, ça explique tout. En fait, Rachel a, depuis le début, à tous les épisodes qui nous sont rapportés par la Torah, elle a joué. Elle a occupé le rôle pleinement de la mère par excellence, de celle qui sacrifie tout simplement ses besoins, son être, sa personne, au détriment de ce qu'elle aime, mais d'un naturel déconcertant. Mais c'est évident que c'est l'autre qui passe avant moi. Et ça, Rachel l'a fait avant même d'être mère, on va dire, naturellement ou physiquement. Elle a été celle qui a tout sacrifié. Et en se reposant sur Rachi, le rabbi justement dit, c'est ce que Rachi essaye de nous faire comprendre, que Yaakov connaissait Rachel. Et quand il a vécu ce drame de sa mort en chemin, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle voudrait ? C'est bien sûr que lui pouvait l'amener à Hebron, à Maharat HaMarpela, comme l'avait fait Abraham, où étaient enterrés son père et sa mère. Mais il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle, elle voudrait ? Qu'est-ce qu'elle, elle dirait à ce moment-là ? Il dit, j'ai aucun doute qu'elle dirait, non, je laisse ma place. Elle a tellement toujours laissé sa place. Il dit, mais ça serait dommage que l'humanité ne prenne pas conscience de cette faculté que ma femme a eue toute sa vie de laisser sa place. C'est extraordinaire. En fait, comment Yaakov essaye d'interpeller toute l'histoire, tous les bnei Israël qui vont venir. Mais je veux que vous vous posiez la question. Mais pourquoi je l'ai enterré là-bas? Mais parce qu'elle laissait sa place. Et c'est exactement ce que Rashi ramène là-bas dans la paracha de Vayechi, sur le passouk qu'on a cité tout à l'heure. Il donne une belle, en fait, il donne une belle définition, le Rav Ashkenazi ici. Il dit Ima yadavar achilo egoisti baolamaze. On a entendu qu'une mère, c'est l'être le moins égoïste dans ce monde. Iroa et ashlemut shela beha'anaka l'achim. C'est tellement vrai. Et c'est tellement une définition universelle. C'est-à-dire, une mère ne voit sa complémentarité, donc sa perfection, qu'à travers ce qu'elle peut apporter aux autres. Qu'à travers ce qu'elle peut donner aux autres. D'accord, que ce soit en intérêt, en cuisine, en cadeau, en sourire, peu importe. Elle ne se remplit qu'à travers ce qu'elle donne aux autres. Et donc, c'est la raison principale pour laquelle Yaakov va l'enterrer, al-em aderer, comme on dit. Sur Mama, sur le chemin, sans l'amener. Et cette attitude, il l'avait remarqué déjà depuis le début. Mais même, je pense qu'on ne prend jamais suffisamment la mesure de ce que Rachel a exécuté dans la paracha de la semaine dernière, comme ça s'est passé, dit en quelques psukim, comme ça, avec des petites allusions. Mais nos chachamim ont pris, hommage, le véritable poids que représente cette messirut nefesh, avec l'histoire des simanim, lorsque Yaakov demande d'épouser Rachel, et que Rachel lui dit « Non, mais tu sais que mais mon père, il ne va pas me donner comme ça, et qu'il va te jouer des tours. » Et que là, Yaakov lui dit « Non, d'accord, moi, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je sais jouer des tours. Je l'ai fait aussi avec mon frère. » Et il lui donne les codes, et qu'effectivement, 2 minutes avant la choupa, elle donne les codes à sa sœur pour que tout se passe bien. Il y a des rishonim qui qualifient cet acte de messirut nefesh encore plus grand, c'est bien, que Akedat Yitzhak. C'est encore plus grand que Akedat Yitzhak, parce que sauf quand on réfléchit, Akedat Yitzhak, c'est le Nisayon, était principalement pour Abraham. Mais Abraham se dit, bon, à 137 ans, qu'est-ce que je vais vivre le reste de ma vie avec cette culpabilité, s'il y en a une, on va dire, de refuser d'offrir à Hachem mon fils. C'est, même si effectivement c'est du domaine qui nous est difficile de comprendre, de rationaliser, ça reste un sacrifice, mais bon, un sacrifice en fin de carrière. Ça reste, il a 137 ans, Baruch Hashem, il a eu un fils, bon, Akadosh Baruch Hu trouvera une solution, il a sa émouna, shalom. On vient en rien dédaigner le Nisayon de la Kedat Yitzhak. Mais dis-moi qu'une jeune femme, au crépuscule de sa vie, de son bonheur, au début de sa carrière, alors qu'elle avait tellement d'amour vis-à-vis de ce personnage qui était Yaakov, qui est capable de se mettre de côté sans savoir ce qui va se passer après, parce que Yaakov aurait pu très bien, très mal le prendre et refuser de travailler cette année supplémentaire. Bon, ça y est, j'ai une femme, ça me suffit. Donc, elle est dans l'incertitude la plus complète et de sacrifier tout son avenir. C'est Rav Shach, on l'a dit peut-être déjà plusieurs fois ici, Rav Shach, il avait une phrase tellement, tellement belle pour expliquer la Kedat Yitzhak, mais elle est encore plus forte ici, cette phrase. Il disait Yoter kal lamut al kiddush Hashem milichiot al kiddush Hashem. C'est combien dramatique ça peut être de sacrifier sa vie physique au nom d'Hashem pour les valeurs de la Torah. Il dit, mais ça reste toujours plus facile que de vivre avec ça. Et c'est comme ça que le Rav Shach, il disait ça pour répondre à la question qu'avec Avraham, on commence par Ur-Kasdim et on finit par Akedat Yitzhak. En fin de compte, peut-être c'est le contraire qu'il aurait fallu faire. Se sacrifier soi-même, il dit non. Parce que si c'était à sacrifier soi-même, il serait mort al Kiddush Hashem. Non, hein, d'accord, il aurait fallu avoir ce courage surprenant à ce moment précis. Mais après, ça y est, bon, il est mort, c'est fini. Il dit, mais la Kedat Yitzhak, c'est qu'il fallait vivre après avec ça. Il fallait vivre avec l'absence de Yitzhak. Et je pense que cette phrase, elle prend encore plus d'ampleur quand on réalise le sacrifice qu'a demandé ce que Rachel a réalisé avec sa sœur Léa. C'est, moi, de vivre avec, et on sait combien la jalousie féminine elle est féroce, elle est cruelle des fois. Combien elle s'est imaginée, d'accord, Ben, c'est pas grave, c'est elle. Je lui donne l'amour de ma vie. Et je vivrai à côté, sans savoir ce qui va se passer. Et donc on comprend pourquoi. Comme ça, c'est marqué dans la Pticha de Echa, dans le Midrash Rabba de Echa, qu'à la fin des temps, Kadosh Baruch Hu, il va chercher des sruyot pour sauver le Ham Israël. Et qu'il va aller voir Yitzhak, qu'il va aller voir Avraham. Mais à chaque fois, Kadosh Baruch Hu retrouve quelque chose à redire. Jusqu'à que Rachel arrive, elle rentre sur la scène, et c'est marqué Miyad Galgelu Rachamav shel Kadosh Baruch Hu ve'amar, Bishvilech Rachel ani marzirat Yisraelim komam. Pour toi. C'est majma que pour toi. Et on comprend la phrase dont on a parlé la semaine dernière au passage, quand Rachel demande des enfants à Yaakov, elle lui dit « Havali banim veim ayin meta anochi ». Mais quelle force! Elle l'est depuis son plus jeune âge, depuis son plus, depuis qu'elle était même célibataire encore. Elle était mère, elle avait l'attitude de la mère. De celle qui offre naturellement et qui se remplit à travers ce qu'elle sacrifie. Et c'est pour ça qu'elle lui dit, mais et si j'ai pas d'enfant, mets à Anochi. Donc en fait, je peux pas mettre en pratique naturellement, je serais amené juste à faire quoi, de façon épisodique, des sacrifices avec l'un, avec l'autre. Mais il dit, mais moi je veux des sacrifices continuels, je me remplis de ça. C'est pour ça qu'elle utilise ce mot très fort. Aïn, mets à Anochi, si j'ai pas d'enfant, je suis hommage, mets à. Et donc, tout ça nous explique un peu mieux, en tout cas, voilà, pourquoi Yaakov tenait absolument à l'enterrer de façon un peu isolée, justement, pour mettre en valeur ce côté de cette personnalité. Il finit là-bas avec en fait, le rabbi, dans un des Likuté Sichot, ramène aussi, on comprend à travers ça ce phénomène, que la filiation passe par le père, on est Cohen, Levi, Israël, par le père, mais on est juif par la mère. Il dit, parce qu'en fin de compte, il dit comme ça, le rabbi explique, il dit, nous les hommes, on est amenés à vivre ponctuellement des rendez-vous avec Hachem à travers des tfilot, à travers notre limoud, etc. Alors, on est obligé de nous imposer des figures, voilà. On est figures imposées, qu'un homme qui se veut respectueux des valeurs de la Torah, toi, t'es trois tfilot, t'as ton limoud, t'as tes chavrutot, etc. Et donc, à travers ça, tu vas te lier effectivement à quelque chose qui te dépasse, qui dépasse ta personne et ton petit confort. Il dit, mais une femme, elle n'a pas besoin de ça. Une femme n'a pas besoin de ces rendez-vous parce qu'elle est, puisqu'elle l'est dans le sacrifice. C'est comme ça que, vous savez, à l'époque, moi, quand j'enseignais il y a une vingtaine d'années à Otsara Torah, il y avait une jeune fille là-bas, Chabad, peu importe, en tout cas, bon, d'une famille assez aisée, qui était Mora dans un Gan, et qui apprenait les brachot aux enfants. Et ma femme m'avait rapporté un incident, m'avait interpellé. Cette femme, quand elle faisait faire les brachot aux enfants, elle le faisait répéter, Anoten, Atservi, Bina, etc. Et quand elle arrivait à la bracha de Shelo Asanisha, qu'elle faisait répéter aux garçons, aux filles, elle ne leur faisait pas répéter Baruch Shehasani Kirtsono, parce qu'elle trouvait ça injurieux. Bon, ben d'accord, aux garçons, c'est marqué, je leur fais faire, mais je ne vais pas changer la bracha pour les filles, je ne vais pas dire Shelo Asanisha, je préfère rien faire, s'abstenir. Mais bon, on peut comprendre, c'est bon. Et jusqu'à qu'un jour, j'ai compris le véritable sens de cette bracha. Baruch Shehasani Kirtsono. C'est malheureusement des gens qui ont mal compris, qui perçoivent mal le sens de cette bracha. Ils le prennent comme un lot de consolation. Bon, ben d'accord, on fait comme sa volonté. J'accepte sa volonté. Voilà, c'est un peu fataliste. C'est un esprit fataliste. Non. Baruch Shehasani Kirtsono. Le ratson d'Hachem, c'est de se sacrifier sans cesse pour donner au Bnei Israël, pour donner au monde. C'est de dire, ah là, mais qu'est-ce que le bon Dieu il fait, les guerres et les religions, ils font des guerres, tout ça c'est Dieu. C'est pas grave. Moi je leur donne. Il dit, une femme, elle est animée de ce même ratson. C'est ça chez Asani, Kirtsono. C'est pas Birtsono. C'est Kirtsono, je suis animé par le même sens du sacrifice qu'Akadosh Baruch Hu. Celui qu'on ne voit pas, celui qui n'est pas visible, dont on peut se permettre toujours de critiquer, de remettre en question et de mal penser à son sujet. Il dit, c'est ça la femme, elle est Kirtsono. Et il finit avec une anecdote ici, assez touchante, il finit avec ça. Hein?
Là-dessus, tu as continué avec moi. Moratson, il nous traduit par faveur, qui a toujours le sens de douceur en français, apaisement. C'est vraiment ça, quoi, ça la femme, c'est ça.
Complètement, complètement, complètement. Ça rend super bien, magnifique, merci. Maintenant, il dit, vous savez qu'en Israël, il y a pas mal de rues, pas mal de villes qui portent, au niveau des rues, le Rehov Nordo. Nordau. À la base, c'est un docteur qui s'appelait Max Nordau, qui a vécu dans sa tendre enfance à Berlin et qui ensuite est venu habiter à Paris. Il était médecin, il était pédiatre exactement. Il était marié avec une non-juive et à des années-lumière de toutes les valeurs de la Torah. Mais il était juif, ouais. Il est juif. Ouais. Vous savez qu'il était juif. Maintenant, au niveau de la pratique, il n'y avait rien du tout. Jusqu'au jour où à Paris, dans son cabinet, il reçoit une mère qui amène son enfant pour se faire soigner, pour se faire examiner. Et donc il commence à parler à l'enfant. Alors, dans quelle école tu es? En français, lui pose. Et l'enfant ne répond pas. Il se tourne vers la mère, il y a un problème verbal. Non, il parle qu'en yiddish. Il ne parle pas français. Il parle qu'en yiddish. Et là, il est tombé sur la mer. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais vivez avec votre temps. Mais pourquoi vous le privez? Pourquoi vous le privez d'être, de devenir sociable? Vous ne prenez que le yiddish, vous l'enfermez, vous le ghettoisez. Il commence à lui faire la morale à la mer. Bon, tant bien que mal. Allez, il doit s'occuper du petit. Bon, lui-même parlait en yiddish aussi, parce qu'il a vécu en Allemagne. Alors, en yiddish, il lui dit, bon, qu'est-ce que tu as appris à l'école aujourd'hui? Et le garçon lui répond, aujourd'hui j'ai appris que Akadosh Baruch Hu nous a promis inconditionnellement de nous ramener en Israël par le mérite de Rachel. Parce que Rachel, elle a tout sacrifié, et grâce à ses sacrifices, Akadosh Baruch Hu nous ramènera en Eretz Israël. Il dit, ces paroles de cet enfant l'ont touché. Il a tout abandonné, sa carrière, sa femme, toute sa vie ici. Et il est parti avant Hakamat HaMedina, avant 48. Il est parti en Israël et il s'est investi dans des lobbies là-bas pour développer le sionisme, le pays. C'est pour ça que tellement de rues portent son nom. Ça, c'est... Voilà, même Rachel, voilà, des fois, on prononce juste le nom de Rachel et ça a un impact de sacrifice extraordinaire. Voilà.